Moi, j'aime bien ça parce que c'est vite de. J'ai à cœur de vous parler des silences de Dieu. Il y a de la tempête. Voilà. Faut pas respirer. Voilà. Les silences de Dieu. Alors, vous avez certainement. Moi, je vous donne mon témoignage, mais vous avez sûrement aussi votre témoignage. Quand vous êtes converti, quand. Oui. Ouais, d'accord. Il y a le technicien qui est. Oh là là, je dois être spécial. Ouais. Quand je me suis converti, le Seigneur m'a exaucé. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais il m'a donné un cadeau. Quand dans ma jeune vie de chrétien, j'étais donc un enfant de chrétien, un petit-fils de chrétien, enfin bon, bref, bon, mais j'étais pas chrétien. Hein, bon. Et puis, je me suis converti et j'ai demandé à Dieu quelque chose un jour et il m'a exaucé. Et ce qui a été merveilleux pour moi, c'est que il avait fait un cadeau, donc l'exaucement, un emploi, hein, pour tout vous dire, c'était inespéré. Et puis aussi le fait que Dieu m'ait répondu. J'avais compris que Dieu me répondait. C'est Dieu est là, il existe, la preuve c'est qu'il n'intervient. Et puis cette expérience de jeune chrétien, ça m'est arrivé d'en parler avec d'autres, et d'autres m'ont dit la même chose que ce que je vais vous dire, et je comprends pas. C'est que moi, quand j'étais jeune chrétien, je demandais quelque chose à Dieu, et il me répondait. Puis maintenant, c'est le silence. C'est le silence complet. Mais je ne comprends pas. Je manque de consécration. Hein? On a parlé de la consécration. Je manque de consécration. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. La preuve, c'est que Dieu ne me répond plus. Et ce genre de choses est pour nous perturbant. Hein? C'est le cas de le dire. Hein? C'est perturbant. Je dis, mais je manque de quelque chose parce que sinon Dieu me répondrait. Voilà. Alors, je voulais donc vous donner des exemples des silences de Dieu. On va en prendre dans la Bible. Vous en avez certainement des exemples. Un premier exemple, c'est 3 jours et 3 nuits. Ça vous fait penser à quelque chose? À quoi? Jonas, oui. Ça fait penser aussi à Seigneur Jésus. Est-ce que ça vous fait penser à d'autres expériences où il y a 3 jours et 3 nuits aussi? Abraham, Dieu vient dire une chose inouïe à Abraham. Nous voyons qu'Abraham habitait à Beersheba, hein, dans le sud, enfin plus ou moins dans le sud d'Israël. Et il y resta très longtemps. Il nous est dit ça dans Genèse, chapitre 21, verset 33. Et nous imaginons souvent que Abraham et Dieu étaient en communion, mais qu'ils se voyaient tous les jours, un peu comme Adam et Ève voyaient Dieu tous les jours. Mais non, Abraham a eu des silences dans sa vie énormes, qui ont mis du temps. Et à des moments, Dieu arrive, comme un cheveu sur la soupe, excusez-moi l'expression, mais il arrive comme ça, tout d'un coup. Il lui demande quelque chose. Et à la fin de sa vie, il était très vieux, Dieu vient le voir. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit quelque chose de super, bien sûr, hein. Il vient voir Abraham. Abraham peut être joyeux parce que Dieu va venir se révéler à lui, dire des choses nouvelles, des choses que. Excusez-moi, ça fait. Et des choses qui vont encore l'enrichir, quoi. Hein? Et il lui dit quelque chose de terrible, vous savez bien. Hein? Il ne va pas lui faire un cadeau. Il va venir le voir pour s'entretenir avec lui de quelque chose. Prends ton fils, Genèse 22, 2. Pas Ismaël, hein, ton fils unique, celui que tu aimes, Itsak. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai, au pays de Moria. Donc Abraham va faire un trekking avec tout son attirail, ses serviteurs. Hein, et vous savez que le pays de Moria. Ouais. Et vous savez que le pays de Moria, c'est loin de Beersheba. Hein. C'est dans les montagnes du nord, ça pourrait faire l'objet, surtout en sport d'hiver, d'un bel agrément de voyage. Hein. C'est super, quoi. Il s'en va au pays de Moria, il n'y a personne qui sait, à part lui, pourquoi il y va. Et que fit Abraham? A-t-il refusé Dieu? Refusé sa demande? Non. Silence de Dieu pendant des années, et tout d'un coup Dieu arrive, on s'attend à ce qu'il dise quelque chose de super, et puis voilà que pan, c'est quelque chose de pire que tout. Pire que tout. La promesse, etc. Tout ça, ça va partir. C'est incompréhensible, c'est absurde. Mais on aurait raison de se révolter contre Dieu, dirions-nous peut-être. Hein. Mais immédiatement, le matin, Abraham se lève de bon matin et il part avec son fils. 75-80 kilomètres. Hein. Il n'y a pas d'autoroute, évidemment, il y avait les sentiers, tout ça. Et il monte, il monte, il monte. Et 3 jours plus tard, il voit le mont Moria. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ça use le moral, hein, 3 jours. 3 jours, ça use les souliers, hein, mais ça use le moral aussi. Il n'y en a qu'un seul qui a le moral dans les talons. C'est Abraham. Il a derrière lui son fils qui lui pose des questions. Tiens, regarde, papa, il y a un aigle, là, tu vois. Enfin, vous imaginez, pendant 3 jours et 3 nuits, silence de Dieu. Et au bout du troisième jour, il voit le mont Moria. Les serviteurs, bon, écoutez, vous nous laissez, moi et le fiston, nous montons pour adorer. Vous restez là, puis on reviendra. Alors, est-ce qu'il pensait réellement déjà qu'il reviendrait? Enfin, en tout cas, il faut y aller. Abraham avait accueilli Dieu au moment où Dieu est venu lui dire d'abandonner l'idée que son fils puisse vivre. Et même, c'est Abraham qui devra tuer son propre fils par obéissance à Dieu. Cette épreuve d'Abraham était à la fin de sa vie. C'était pas une expérience de début de vie spirituelle. C'était la fin de sa vie terrestre avec Dieu. N'imaginons pas que, parce que nous sommes des vieux chrétiens, imaginons, hein, que on n'aura pas encore de tristes, d'apparentes situations terribles que nous devrons vivre. C'est pas parce qu'on est plus consacré à Dieu que Dieu ne va pas faire des choses qui nous perturbent. C'est ce qui s'est passé pour Abraham. Et c'était Abraham, le père des croyants. Hein? Et c'est pas pour rien, voyez. Voilà. Est-ce que nous sommes capables d'accueillir Dieu lorsqu'il nous demande l'absurde? Quand on sait réellement que c'est de l'absurde, hein? Il ne s'agit pas d'égaroger dans sa tête, non, quand on sait réellement que c'est Dieu qui nous le demande. Voilà. Ça, c'est encore un 3 jours et 3 nuits que nous connaissons bien. Il y a un autre 3 jours et 3 nuits qu'on connaît aussi. C'est sur le chemin de Damas. Il y a un gars qui s'en va sur Damas et il a l'intention d'aller nettoyer la ville de Damas de tous les hérétiques qui sont en train de tuer le message de Adonai. Hein, et il arrive en vue de Damas. Et puis là, paf, il lui arrive un sale coup. Il se retrouve aveugle. Il rentre dans Damas comme un fou, quoi, avec des gens qui le tiennent d'eux parce qu'il est secoué, quoi. Il est secoué, il s'en va, il dort il jeûne 3 jours, 3 nuits. Hein, et pendant ces 3 jours, il est comme Abraham, il est comme Jonas, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont sortir de ces 3 jours. Hein. Nous, facile, hein, on sait ce qui se passe après. Hein. Mais non, non, ils ne savent pas. Ils sont là pendant 3 jours et 3 nuits à être dans l'agonie. Lui, l'apôtre Paul, c'est un peu différent. C'est j'ai tué des témoins de Adonai. J'ai tué des témoins de Yahvé. J'ai tué des témoins de Elohim. Hein, c'est un juif. Et il se rend compte que tout en étant un bon juif, il a fait exactement l'inverse de ce qu'il pensait. Et il était très, très, très,
comment dire, très érudit dans la foi, et on le sait bien. Ça ne l'a pas empêché d'être complètement à côté de la plaque. 3 jours et 3 nuits. Et là, Ananias va venir, il n'ose pas, même hein, Ananias, il hésite, il se dit, tu te rends compte, Dieu, tu... Et Ananias aussi, lui, il a son épreuve. Mais lui, ce n'est pas 3 jours et 3 nuits. Et juste là, il obéit à Dieu, et il va voir, et il dit, Saul, mon frère, le Seigneur m'a appelé pour te, hein, pour te libérer. Voilà. Donc, vous voyez, les silences de Dieu sont liés, pour nous, à une absurdité. Il y a quelque chose que nous vivons et qui peut et pour lesquels on serait en droit de perdre la foi. Enfin, en droit, c'est entre guillemets. Mais vous voyez que c'est possible que des gens qui sont sollicités comme nos frères et sœurs persécutés, on peut comprendre qu'à un moment donné, ils s'en vont. J'ai dans ma famille, sur Dunkerque, quelqu'un de, qui est venu voir Marie-France à Onésime et puis qui dit moi je vais plus nulle part parce que je préfère rester avec Dieu tout seul, mais je ne veux pas de communion avec mes frères et sœurs, j'en veux plus, j'étais dans telle assemblée, dans telle autre, je veux plus. Donc il est en souffrance, et bon, puisque c'est de la famille, je connais, il est en souffrance, mais nous voyons qu'Abraham n'a pas fait ça. Nous voyons que l'apôtre Paul n'a pas fait ça. Pour Jonas, il avait aucune chance de s'en sortir. Il était déjà dans l'estomac du poisson, donc c'était fini pour lui, quoi. Hein. Mais oui, il a pu en sortir. Et je me dis que le Seigneur Jésus-Christ, dans ces 3 jours et 3 nuits où il était dans le sein de la terre, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il avait la certitude qu'il allait être exaucé? Certains versets, on ne discutera pas de cela, mais certains versets nous laissent supposer qu'il a été exaucé pour sa fidélité envers Dieu, lui-même, Jésus, Dieu le Père. Voilà. Alors, voilà les silences de Dieu. Les silences de Dieu, comment dire? Décidément, je crois qu'on va changer.
Excusez-moi, je pensais que ça marchait, mais ça marche pas bien.
Ça va? C'est bon? Oh, c'est mieux. Hein.
Finalement, la technologie c'est bien, mais c'est souvent l'orateur qui va pas bien. C'est pour ça. Voilà. Les silences de Dieu, quelquefois, je me suis dit, les silences de Dieu, ça fait un peu, ça va peut-être vous choquer, je ne sais pas, ça me fait penser à deux amoureux, ou deux personnes qui s'aiment, ou qui s'aiment plus ou moins, ou qui se côtoient pas encore, il existe un sobriquet, ou une façon de parler, on dit, je te suis, tu me fuis. Je te fuis, tu me suis. Vous comprenez qu'elle a une... Par exemple, un jeune homme est intéressé par une jeune fille, hein, c'est dans l'ordre des choses, et le fait qu'il soit trop intéressé à la jeune fille fait que quelquefois la jeune fille a envie de fuir. Pour prendre l'inverse, hein, c'est-à-dire une jeune fille s'intéresse à un jeune homme, et puis le jeune homme, il va fuir. Donc le fait d'être trop sur la personne fait que la personne elle a pas envie. Puis quelquefois les mêmes personnes, tout d'un coup la jeune fille s'aperçoit que le jeune homme, au lieu de toujours la suivre, se met à fuir sa présence. Alors tout d'un coup ça l'intéresse bien de finalement d'avoir été un peu courtisé par le jeune homme. C'est assez bon, c'est psychologique, je sais pas trop, mais enfin ça fonctionne souvent comme ça, hein. Bon, si ça peut être le jeune homme, un jeune homme tout d'un coup il dit, bah, tiens, au lieu de toujours me tanner avec sa présence, maintenant elle ne s'intéresse plus à moi. Puis finalement le gars il se dit, oh mais elle est intéressante quand même cette jeune fille. Bon, vous voyez, ça n'a pas l'air comme ça très spirituel ce que je dis, c'est un fait un petit peu sentimental. Mais on va voir dans la Bible que ça ressemble un peu à ça, il y a quelque chose de cela. Hein. Et alors, par exemple... David.
David, on se pose des questions sur lui. Vous vous êtes certainement déjà posé des questions. Il n'a pas l'air d'être apprécié dans sa famille. Même son père a oublié qu'il existe. Quand le prophète vient pour choisir le roi d'Israël, le futur, n'existe plus. Alors certains disent, en lisant, alors ça c'est une interprétation, mais ça semble être cela. Mais vous avez le droit de penser autrement. Je vous donne mon interprétation, je pense que c'est plutôt ça. Dans le psaume 51, il nous est dit que j'ai été conçu dans le péché. Et cette notion, c'est pas j'ai été conçu dans le péché, sous-entendu les relations sexuelles sont du péché, c'est pas vrai, c'est qu'il a été conçu sûrement par adultère. Il y a eu une histoire comme ça. C'est ça le péché, c'est pas d'avoir des relations sexuelles, c'est d'avoir des choses qui ne sont pas ce que Dieu demande. Et donc il est probablement un fils naturel de Isaïe. Les autres frères n'en veulent pas. Hein. Et ce jeune frère, on voit qu'il n'est pas très apprécié par ses sept frères. Hein. Voilà. Et ce petit David a vécu dans la nuit. Il était dans les champs, probablement, parce que quand il nous dit « les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains », on a l'impression qu'il connaît et qu'il est devenu astronome, tellement... Il y avait du temps pour regarder les étoiles. On voit que c'est un jeune homme qui s'est accroché à cause de la solitude qu'il a vécue à Dieu. Des silences de Dieu ou des silences de la famille peuvent amener un enfant ou un jeune homme à s'accrocher à ce qu'il peut. Et il s'accroche à Dieu. Mais voilà, David il dit une chose. J'ai l'impression que tu m'as laissé tomber, Seigneur. Regardez, psaume 35, versets 21, 22 et 23. Psaume 35, il est dit, « Ils ouvrent leur bouche contre moi. » Et ils disent, « Ah, nos yeux voient, nos yeux regardent. » Ils regardent quoi? Mais ils regardent la déchéance de David, ils regardent les problèmes de David, et ils disent, « Super, on est content que David puisse se casser la figure. » Super, parce que David, il va mourir. Qu'est-ce que ça nous fait plaisir? Et lui, il dit, mais Seigneur, regarde ce qui se passe. Et qu'est-ce que j'ai fait? Verset 22, ne reste pas dans le silence. Ne reste pas dans le silence. Et puis, c'est un cri que nous serions capables de donner aussi quelquefois. Ne reste pas dans le silence. Seigneur, ne t'éloigne pas. Et verset 23, réveille-toi. Pour me faire justice. Donc ce psaume 35, c'est un peu, c'est pas égoïste, mais c'est pour lui. C'est pour lui-même. Écoute, Seigneur, sauve-moi, parce que j'en peux plus. Hein. Je suis dans la détresse. Voilà. Puis Dieu, il est pas là. Puis silencieux. On a un autre exemple, c'est dans le psaume 83. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Il faut que tu constates, verset 3, hein, verset 2 c'est ça, et verset 3 on pourrait le traduire, il faut que tu constates, Dieu, que tes ennemis, ils vont te tuer. Toi Dieu, ils vont te tuer, ils veulent te détruire, ils veulent détruire Dieu. Hein, c'est comme si c'était possible. Hein, et ton peuple avec. Et toi? Verset 2, ne reste pas dans le silence. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans ce monde, excusez-moi, mais vous êtes comme moi, il y a des moments où on dit, mais Seigneur, mais réveille-toi, fais quelque chose. Tu restes dans le silence, mais pourquoi? Et là, on est titillé dans notre foi. Hein. Est-ce que je dois encore faire confiance à Dieu? Parce qu'il fait rien. Voilà. Dans le psaume 74, il est dit, n'oublie pas les clameurs, verset 23 du psaume 74, n'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Nous voyons aujourd'hui, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, des gens qui sont opposés à toute idée de Dieu, opposés à toute idée de pardon, d'amour, de Jésus-Christ qui vient pour sauver les pécheurs. Mais tout ça, c'est stupide pour beaucoup. Et nous, on dit, mais Seigneur, mais tu pourrais te révéler à certains. Et il le fait, heureusement. Mais pas dans nos pays, hein. Plus dans l'islam, plus plus ailleurs. Nous avons donc un paradoxe. Nous avons le silence de Dieu et notre certitude que Dieu devrait ne pas être silencieux. C'est pas normal, Seigneur, tu restes silencieux, tu ne devrais pas. Et ça n'empêche pas de rester silencieux. Seigneur, tu vois, j'avais besoin de réussir cet examen. C'était super. Pourquoi tu n'as pas permis? Réponds-moi. Silence. Seigneur, tu vois, je suis malade et je réduis mon efficacité pour faire ce que je pensais faire bien. Et tu ne me guéris pas. Réponds-moi. Donne-moi juste un petit truc, un petit clin d'œil pour savoir que tu es encore là. La réponse, non. Silence de Dieu. Silence. Alors, ça nous chamboule. Ça me chamboule. C'est peut-être que moi, il y a peut-être que moi qui suis chamboulé dans cette assemblée. Mais voilà. Mais moi, j'ai appris qu'il y avait un peuple qui est resté 400 années dans l'esclavage sans avoir une seule fois entendu la voix de Dieu. Bien sûr, ce peuple criait à Dieu. Parce qu'on le sait après, hein, quand Dieu voit Moïse, il lui dit, tu sais, les cris du peuple sont venus jusqu'à moi. Ça fait déjà un bail hein, qu'il y avait des cris du peuple, puisque ça faisait 400 ans. Hein. 400 ans. Si nous, on devait attendre Dieu 400 ans, il faudra qu'on fasse du jogging et puis qu'on se mette en bonne santé hein, pour rester 400 ans en vie. Bon, 400 années de silence. C'est quand même absurde. On a l'habitude, hein, c'est notre culture chrétienne, mais 400 années de silence. Et puis, ben voilà, Dieu dit, il est silencieux. Voilà. Un silence de Dieu qui dure 400 ans jusqu'à Moïse. Vous pouvez imaginer. Et puis, j'ai appris qu'il y avait un peuple aimé de son Dieu qui, après avoir eu les commandements et les écrits de Dieu, jusqu'au livre de Malachie, n'a plus entendu la voix de Dieu pendant 400 ans. Un silence de Dieu qui dure, tiens, 400 ans d'années aussi. Jusqu'à Jésus. Jésus, celui dont Moïse parle et qui dit « Je vous enverrai, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Hein » Donc vous voyez, il y a la similitude, hein, Moïse lui-même en parle. Deutéronome 18-15. 400 ans. Alors moi, quand Dieu reste 4 secondes sans moi, sans me répondre, ou 4 mois, ou 4 ans, c'est dur, hein. Nous, c'est 400 ans. À côté de 400 ans, c'est rien du tout. Hein. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, un nourrisson, on sait hein, maintenant, un nourrisson, quand il est fusionnel avec sa mère, hein, il vient juste de naître, hein, et puis il se croit la mère, et il ne fait aucune différence entre la mère et lui. C'est lui. Hein. Sa mère, c'est lui, et lui, c'est celle qui est constamment devant lui, bébé, il est avec. Il est lié à ça, hein, lié à sa mère. Hein. On pourrait dire bébé tout puissant, parce que dès qu'il pleure, bébé, voilà, il est bébé tout puissant. C'est bon, voilà. Est-ce que c'est normal qu'il soit comme ça? Là, on ne va pas non plus commencer à réfléchir, mais on sait que la chute étant venue, peut-être que si le bébé dans un autre monde, enfin dans une autre situation que nous aurions pu connaître, n'existe pas, bien sûr, mais il aurait peut-être déjà des notions spirituelles qui l'empêchent de se regarder comme tout puissant. C'est pas impossible. Il suffit que la mère disparaisse et de son champ visuel pour qu'il hurle ou qu'il pleure ou qu'il se sente pas bien, hein, parce que ça lui révèle une sorte de vide, une sorte de néant. Et si elle n'existe plus, alors lui, il n'existe plus non plus. Bon, le papa est là, hein, on peut espérer, pour enseigner à son enfant qui existe en dehors de sa mère, quoi. Et justement, il est un peu là pour ça. Pas uniquement, bien sûr, quand même. Et c'est à dire que le silence de la mère, ce serait l'inexistence de la mère. Pas vrai. Et je me demande si parfois je ne fais pas comme ça avec Dieu. Le silence de Dieu voudrait dire que Dieu est inexistant. Parfois, on est des bébés en Christ. Enfin, en tout cas, moi, je me vois un peu comme ça. Hein. Quand maman réapparaît, dans son champ de vision, gigote de ses quatre petits membres, hein, Et maman est ressuscitée. C'est extraordinaire. Il lui faut la preuve visuelle que maman existe pour qu'elle existe. Ça nous rappelle un petit peu Thomas, hein, qui a besoin de voir Jésus ressuscité et puis de mettre ses mains là où il faut pour s'apercevoir que c'est pas une fiction. Hein. Et vous pouvez transposer à d'autres situations. Vous voyez vos situations et bon, j'ai les miennes, bon, ben voilà. Et dans 1 Pierre chapitre 1 verset 4, il nous est dit que toute chair retourne au silence de la poussière. Toute chair retourne au silence de la poussière. C'est ce qui nous est dit dans Genèse chapitre 3 verset 19 et ce qui nous est rappelé dans 1 Pierre 1 24. Il nous est dit même que il parle de la fleur qui est jolie et il fait certainement allusion à ce que dit Jésus. Il dit, vous savez, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme une fleur, hein, qui est bien plus belle et bien plus élaborée que les vêtements de Salomon, hein, et de Salomon lui-même. Et au verset 24, il dit, par contre, la parole de l'Éternel n'est pas silencieuse. 1 Pierre 1, 25. La parole du Seigneur n'est pas silencieuse. Elle est éternelle. Et cette absence de silence, c'est l'évangile. Donc, l'apôtre Pierre a l'air de nous dire, bon, Dieu n'est pas là, vous ne le voyez pas. Mais vous avez un bouquin, c'est même un très bon bouquin. C'est Al-Kitab al-Mukdesh pour les Arabes, hein, c'est le livre saint pour nous, et c'est la révélation de Dieu. Et là-dedans, si on a le Saint-Esprit, on se retrouve avec Dieu facile, même si Dieu est silencieux. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, par sa mort à la croix et sa résurrection, est inscrite là-dedans, dans n'importe quel endroit où on y va, on peut y trouver des traces. Donc, on rejette, c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre, hein, il dit, on rejette tout ce qui est masqué, on ne veut pas, on ne veut plus de mensonges, hein, et le Saint-Esprit a tellement titillé notre conscience, qu'on n'a plus qu'un seul désir, écouter Dieu. Ne plus nous écouter nous-mêmes, oui, mais Dieu ne parle toujours pas. Ben, si, dans 1 Pierre 2, verset 1, il nous est dit, rejetant donc tout ce qui est masqué, les mensonges, on désire voir notre... Alors, je vais vous choquer. On désire voir notre mère, ouais, notre mère boire le lait de notre mère. Et vous savez ce que c'est El Shaddai dans le contexte judaïque. El Shaddai, c'est donc le tout-puissant. Mais en fait, on pourrait dire le tout-nourricier, celui qui donne la nourriture. Et donc, le Dieu d'Abraham, c'est El Shaddai. Et quand il rencontre Melchizedek, c'est Elion. C'est-à-dire que le Dieu nourricier, c'est aussi le Dieu qui est au-dessus de tout. Il fait les deux en même temps. Il est près de toi. Et il est en plus très haut et très difficile à atteindre, et en même temps, il veut se faire connaître. C'est un Dieu particulier. C'est le seul Dieu qui existe, mais il est comme ça. El Shaddai, le Tout-Puissant, ça vient de Shad Mamel. Hein. Donc ici, dans cette auguste assemblée, nous avons des gens qui portent des mamelles, hein, parce qu'ils représentent Dieu aussi. Faisons l'homme à notre image, homme et femme. Et donc, chacun ayant son rôle en tant que mari et femme, par rapport aux enfants, nous représentons la façon dont Dieu est. Et c'est pour ça qu'il nous a créés hommes et femmes. Enfin, pas uniquement pour ça. Voilà. Hein. Donc, dans 1 Pierre 2, 1, il nous est dit, rejetant donc tout ce qui est masqué, les mensonges, on désire voir notre mère, notre Dieu, notre mère, c'est un peu... Bon, c'est théologiquement, je crois que je vais me faire avoir. Là. Il y a des gens qui vont me créer des problèmes. Mais il est le Père, hein, et le Père céleste, mais il est aussi le nourricier. Et il le fait par quoi? Alors, c'est marqué. Hein. C'est marqué. Ce bébé que je suis a trop l'habitude de se croire bébé tout puissant. Et il tire après les mamelles spirituelles pour avoir. Voilà. Et il veut entendre sa mère, enfin son père, quoi. Enfin, Dieu, quoi. Voilà. Et le verset 2 de 1 Pierre 2 dit bien, nous désirons. comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, pour grandir en maturité. C'est ce qui est dit un peu, on peut le dire autrement, pour le salut, à une condition, c'est que nous savons que Dieu ne reste pas dans le silence. On pourrait dire ça comme ça. Il ne reste pas dans le silence. Et qu'il est bon, verset 3. Donc spirituellement, on va s'approcher de lui. Même si nous sommes en souffrance de la part des autres, des hommes, des femmes, on va s'approcher de lui. Donc on va s'approcher, rechercher ce qu'il veut lui. Et on s'occupe un petit peu moins, enfin je dis on, mais c'est un peu impoli, je veux dire, je vais essayer moi, hein, de m'occuper un peu moins de moi et un peu plus de lui. Il s'en contente. Parce qu'on commence à comprendre qu'il veut notre croissance. Et on commence à comprendre que parce que ces silences sont liés à notre croissance. Et que comme le bébé va commencer à comprendre qu'il est mature, même si maman elle est à New York et papa à Tokyo, il va, en tant qu'être humain mature, adulte, ben il arrive à s'assumer sans ses parents, quoi. Hein, et c'est ce que Dieu veut, c'est que nous soyons adultes et matures, qu'on n'ait plus besoin de lui, enfin, entre guillemets. Hein, que voilà, hein, y a de ça. Hein. Donc, comprendre ce qu'il veut lui, parce qu'on commence à comprendre qu'il veut notre croissance, notre épanouissement, comme un père qui désire que son petit gars devienne un homme mature et responsable. Comme un père qui désire que sa petite chérie devienne mature, accomplie, responsable. Sa création belle et resplendissante, d'une beauté spirituelle inégalée, c'est l'Église. Alors les stars de cinéma et de la télé peuvent aller se rhabiller, c'est rien du tout à côté, c'est rien du tout. Dieu montrera un jour son Église comme la plus merveilleuse création de l'univers. C'est son projet. C'est son bébé. Et quelqu'un il est en train de construire une voiture nouvelle, électrique ou je sais pas quoi, et puis il garde, il protège son truc, et il dit aux gens, touche pas à mon bébé, hein, touche pas à mon projet. Ben, Dieu il dit ça aussi, touche pas à mon bébé. C'est nous. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 2, « Je vis descendre du ciel, dit l'apôtre Jean, d'auprès de Dieu la ville sainte. » La nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Quelque chose de merveilleux, quelque chose qui est lié à ce que nous voyons théoriquement aujourd'hui entre un jeune homme et une jeune fille. Quelque chose de merveilleux qu'on n'imagine pas. On peut se faire on a le droit hein, de se faire des idées sur ce que ce sera, mais ce sera certainement bien plus précieux que ce que nous imaginons. Hein. Elle s'est parée comme une mariée pour son époux. Voici la tente de Dieu avec les hommes, le passé, les souffrances, la mort. Tout ça, tout avant, tout d'avant, a disparu. Alors comment ça marche avec Dieu? Dieu s'en va, comme maman s'en va. Qui sort de la pièce où se trouve le bébé tout puissant. Et alors là, le bébé tout puissant, il hurle, il a peur car il va mourir. Bon, j'exagère un peu, c'est vrai, on n'est pas comme ça, mais il y a un peu de ça. Le croyant, l'enfant de Dieu, il essaye de retrouver Dieu, qui, on dirait, a disparu. Donc quand Dieu s'en va, quand Dieu est silencieux, on le cherche. Quand Dieu est trop près, trop habitué, on aurait tendance à le laisser tomber. Vous voyez, c'est... Dieu est un éducateur, un pédagogue pour moi, pour vous. Et quelquefois, il n'y a pas d'autre solution. C'est pas qu'il n'est pas tout puissant, mais il s'adapte à nous, heureusement. Sinon, on serait déjà mort depuis longtemps. Le Dieu Tout-Puissant revient, comme la maman qui revient dans la pièce où se trouve le bébé Tout-Puissant. Le bébé Tout-Puissant gigote de ses quatre membres. Et il va pouvoir s'apaiser et jouir de la présence de sa maman. Eh bien, le croyant, l'enfant de Dieu, satisfait de la présence de Dieu, se repose. Il jouit de la paix que le Dieu Tout-Puissant lui donne. Et c'est vrai. C'est vrai. Et donc, on se demande, enfin, je ne sais pas moi, mais Abraham, il devait vraiment avoir cette notion que de toute manière, qu'il arrive quoi que ce soit, le plus important, c'est pas son fils, c'est Dieu. Mais je me dis, c'est curieux quand même, parce que Dieu lui-même, il a fait la même chose. Le plus important pour Dieu, c'était pas son fils, c'était nous. Au point de dire que Dieu nous adorerait, ça c'est complètement hérétique, hein, mais Dieu nous aime tant que son fils, il est prêt à l'abandonner comme Abraham était accroché à Dieu et que c'était ça plus fort que son propre fils qui avait toutes les promesses que Dieu lui avait données. On sent les deux aspects et l'image qu'Abraham donne de lui-même nous donne l'image de ce que Dieu peut être lui-même. Pour toi, pour moi. C'est extraordinaire. Hein. On a l'impression qu'il faut qu'on se trouve dans la souffrance pour que notre foi et notre maturité augmentent. Ben oui, enfin, quand je dis nous, c'est moi, quoi. Hein, parce que pour ma foi et ma maturité augmente, ben, il faut quelquefois que le Seigneur il me tape pas, il me frappe pas, mais il reste silencieux, il permet ainsi que je revienne à lui. C'est drôle, mais c'est comme ça. C'est dû à la nature humaine, probablement, hein, dont on sera libéré un jour, mais qui est toujours là. Hein, voilà. Et on a l'impression que lorsque nous sommes dans la paix du Dieu Tout-Puissant, automatiquement, nous nous relâchons. Spirituellement, Dieu n'est pas contre le repos, mais il est contre le relâchement. Mais il sait mieux que nous ce qui est en nous. Hein, il nous a dit, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, mais ils sondent tout, mais en moi et en vous. Hein. Et Dieu patient est obligé de sortir de la pièce pour que nous ayons le désir de retourner vers lui. C'est terrible. C'est quand même terrible, mais c'est comme ça. Bon. Donc, de la part de Dieu, c'est un peu je te fuis, tu me suis, ou si je te suis, tu vas me fuir. C'est un peu ça. C'est un peu comme un jeune homme et une jeune fille, en toute pureté bien sûr, hein, qui, lui, il fuit la jeune fille, enfin moi, j'en ai parlé, hein, voilà. Ça marche dans les deux sens, un jeune homme cherche une jeune fille, ou une jeune fille cherche un jeune homme, puis ouais, c'est curieux, mais c'est comme ça. Et c'est bizarre, ça ressemble un peu à ce que Dieu fait. Dans un domaine spirituel, mais aussi un domaine de sentiment avec lui. Dans l'histoire de Jacob, vous vous souvenez de Jacob, hein? Je vais bientôt arrêter. Dans l'histoire de Jacob, il va rencontrer son frère Ésaü. Et puis, d'après les informations qu'il a de ses informateurs, Ésaü arrive avec 400 personnes, mais armées. Hein? Donc, oula, c'est chaud. Hein? C'est chaud. Et alors, quand il est parti à Haran, bien des années avant, il est arrivé dans un endroit où il a vu une échelle et dessus des anges monter et descendre. Hein. Donc il a vu Dieu, il a vu quelque chose de Dieu qui était extraordinaire et il restait avec ça. Et puis il a eu des silences de Dieu pendant toute sa vie à Haran, il ne s'est rien passé de spécial avec Dieu, quoi. Et quand il arrive de retour vers son pays, vers Isaac, il a besoin. Enfin, c'est pas lui qui le sent, mais c'est Dieu qui sent qu'il a un besoin. Et avec cette menace d'Ésaü, il sait qu'il va mourir. Il fait toute une stratégie en envoyant des troupeaux pour essayer d'amortir un peu le choc, hein, vous voyez. Mais il y a des chances qu'il s'en sorte pas, quoi. Et là, Dieu se révèle à lui. Mahanaïm. Hein, c'est-à-dire une danse de deux camps, et là il y a des soldats de l'armée céleste qui sont là et qui dansent. Ils sont à deux camps, je te fuis, tu me fuis. Enfin, un drôle de truc, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est la danse de deux camps. Ouais. Et donc Jacob sait à ce moment-là que Dieu est avec lui. Donc si Dieu est en silence, parfois dans le long silence, il peut revenir et nous dire hé. Je te fais un petit clin d'œil. Je suis là. Et là, il y avait vraiment besoin de sentir que Dieu était là. Donc, on ne peut pas dire que Dieu est systématiquement dans le silence. Il est dans le silence quand il a besoin de nous mettre dans cette situation de silence pour qu'on retourne à lui. Mais quand on est vraiment dans la détresse, Dieu est là. Alors, il y a une expression dans le Cantique des Cantiques qui est la même. Mahanaïm, qui veut dire une danse de deux camps. C'est-à-dire, tu me fuis, je te suis, tu me fuis. Il y a un truc, vous savez, les danses par Rabbi Jacob, mais un peu ailleurs, vous pouvez voir ce genre de choses. On voit des jeunes filles, des jeunes gens qui sont dans deux camps comme ça. Hein, et c'est beau à voir. Et puis, c'est un petit peu ce qui se passe avec le Seigneur, avec nous, spirituellement et sentimentalement, dans notre cœur avec lui. Et donc, à un moment donné, Vous voyez, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1, « Il me fuit, je le poursuis. » On pourrait... Le chapitre 3 des Cantiques des Cantiques, verset 1, vous pouvez regarder, c'est un petit peu ça. « Mon bien-aimé n'est pas là, et je le cherche. » Et puis, il me poursuit après, et c'est moi qui le fuis. C'est ce que dit la jeune fille. Hein. C'est dans le chapitre 5, verset 2. Et puis, à un moment donné, je l'ai perdu, et je veux le retrouver. Et c'est dans le verset 6 du même chapitre 5. Il y a quelque chose de curieux qui est lié à l'absence ou à la présence du bien-aimé ou de la bien-aimée. Hein. Et les spectateurs, ils disent à un moment donné, mais pourquoi vous regardez la Shulamite comme une danse de deux camps? Pourquoi vous la regardez comme ça? Parce que la Shulamite, elle est ambivalente. C'est... Enfin, il n'y a pas que les dames qui sont ambivalentes. Hein. Les hommes aussi sont ambivalents spirituellement. L'Église de Dieu est probablement aussi ambivalente. De temps en temps, elle s'approche de Dieu, puis finalement, après, elle s'en retourne. Quand on regarde les analyses des sept églises de l'Apocalypse, on voit qu'il y en a une qui dit à elle-même, « J'ai même plus besoin de toi, Dieu. J'ai tout ce qu'il me faut. Tu peux t'en aller. Tu peux rester dans le silence, mais je m'occupe de tout. » Et c'est l'Église de Laodicée, vous connaissez. Et quelquefois, c'est un peu comme ça que ça se passe pour moi ou pour vous. Oh Seigneur, t'as pas besoin de t'occuper de ça. Moi, je vais m'en occuper tout seul. Je ferai mieux que toi. Oh non, on va pas quand même dire ça. Hein. Non. Les spectateurs disent, pourquoi regarder la Shulamite comme on regarderait une troupe de danseurs qui balancent d'un côté et d'un autre, hein, comme une danse de Mahanaïm. Voilà. Eh bien, c'est ce qui se passe entre Dieu et nous. Et quand il est silencieux, on revient vers lui. Pour s'attacher encore plus fort à lui. Comme la Shulamite. Je vais plus. Je ne peux plus supporter qu'il soit absent. Donc, même s'il est absent, je vais chercher après lui. Voilà. Donc, c'est très sentimental, cette histoire des Cantiques des Cantiques, mais on peut le transposer à l'Église et à Jésus-Christ. Voilà. Et dans Jacques, chapitre 1, ce sera ma conclusion, chapitre 1, verset 2, vous avez ce fameux verset. C'est un sujet de joie complète quand. Grâce à l'épreuve, on se retrouve tout près de lui. Hein, on pourrait dire ça. C'est pas marqué tout près de lui. Hein. C'est pas marqué dans le verset 2 hein, du chapitre 1 de l'épître de Jacques. Mais quand vous regardez l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 2, c'est un sujet de joie complète lorsque nous sommes dans l'épreuve et que ça nous ramène vers le Seigneur. Je dis ça pas en vous reprochant quoi que ce soit, mes frères et sœurs, parce que bah, moi, je suis... peut-être moins bien que vous dans ce domaine. Hein. Enfin, voilà. Hein. Vous permettez, on va terminer par la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que ce que tu fais, qui est parfois absurde, enfin, comme pour Abraham, comme pour d'autres, fait en sorte que nous nous retournons vers toi, que l'on revient vers toi. Seigneur, merci parce que même dans les silences, tu vas essayer de développer notre foi, où tu vas faire susciter en nous la foi, une foi un peu plus solide encore que lorsque nous étions juste convertis. Et tu ne vas pas forcément nous exaucer, mais parfois tu n'es pas dans le silence. Tu es dans ce silence parce qu'il nous fait du bien pour que nous puissions nous rapprocher de toi. Merci Seigneur parce que Jésus, lui, est resté dans le silence 3 jours et 3 nuits, ressuscité par toi. Je ne sais pas s'il savait qu'il serait ressuscité. Il l'avait demandé, mais tu l'as fait, toi, Dieu le Père. Seigneur, nous voulons t'adorer pour le gros bébé, le gros projet, le grand projet que tu as fait avec nous. Et nous te remercions parce que moi j'en suis indigne. Et je crois qu'on peut tous le dire, on est indigne de ça. Et nous serons très réjouis le jour où nous verrons comment ça marchera. Merci Seigneur. Amen.